le magazine des Nations Unies.
L'aménagement du territoire, plus qu'une nécessité pour la RDC, le PNUD, disposé à accompagner les processus de la réforme dans ces secteurs, et son représentant salue le leadership du ministre Agé Matembo dans ce combat. Jeudi dernier, le ministre de l'aménagement du territoire a amorcé sa campagne de plaidoyer à Kinshasa. Les détails dans cette édition. Justice internationale, 30 ans de prison ferme, c'est la peine infligée à Bosco Ntaganda, à la CPI. Le verdict est tombé jeudi le 7 novembre 2019, comme c'était annoncé, et les réactions ont aussitôt été enregistrées en Ituri, où ont été commis les crimes pour lesquels l'ancien seigneur de guerre est condamné. Enfin, quel bilan pour les casques bleus indonésiens déployés dans la province du Tanganyika 12 mois après. Une cérémonie d'au revoir au premier bataillon de ces contingents a été organisée. Vous suivrez tout cela dans quelques instants dans le développement de ces titres avec notre correspondant à Kalemie.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce 392e numéro du magazine des Nations Unies. La RDC est engagée depuis 2017 avec l'appui technique et financier du PNUD dans le processus de la réforme de l'aménagement de son territoire. Jeudi dernier, alors qu'il amorçait sa campagne de plaidoyer, le ministre de l'aménagement du territoire s'est réjoui que ces secteurs aient été érigés en un ministère à part entière plusieurs décennies après. Honoré Missenga Kalala a assisté à ces plaidoyers. Suivez son reportage.
Au-delà des formules protocolaires, le ministre Agé Matembo a commencé son plaidoyer par la définition du concept.
L'aménagement du territoire est l'organisation spatiale du territoire, son utilisation et occupation rationnelle, sa valorisation économique pour le bien-être de la population et de l'amélioration de son cadre de vie. Cette organisation va de pair avec un développement harmonieux et durable, soutenu par la qualité de l'environnement et l'équité entre territoires. C'est aussi un ensemble d'actions et de modifications délibérées opérées par les terroirs.
Et pendant les 40 minutes de son exposé, le ministre de l'Aménagement du Territoire a articulé son plaidoyer autour de plusieurs autres points, entre autres le contexte de l'aménagement du territoire, ses défis, ses enjeux et sa vocation, les orientations stratégiques de sa réforme, ainsi que la problématique de chevauchement des usages des terres. Pour ce dernier point, le ministre Agé Matembo a reconnu trois choses du fait de l'instabilité de l'aménagement du territoire en RDC.
L'instabilité de l'aménagement du territoire a favorisé 1. Le chevauchement des attributions entre le ministère sectoriel qui est à la base de beaucoup de confusions et des contradictions sur l'affectation des terres avec comme conséquence la superposition des titres d'occupation et d'exploitation des espaces. 2. Les conflits dans l'occupation et d'exploitation de l'espace naturel, cas du parc de Virunga, notamment par plusieurs types d'activités minières, agricoles, forestières, les échelles d'activités, exploitation industrielle et artisanale ou vivrière, pouvoir étatique légal et coutumier au niveau foncier. 3. La non-préservation des écosystèmes.
Tous ces plaidoyers du ministre n'ont qu'un objectif, susciter l'implication des acteurs clés dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire en cours en RDC depuis 2017, une réforme dans laquelle le PNUD est également impliqué par son appui technique et financier. Dominique Sam, son représentant résident en RDC, a lui aussi circonscrit l'événement.
L'événement de ce jour se fait dans le cadre de la validation de la politique et des instruments juridiques prévus dans le cadre de la réforme de l'aménagement du territoire et dont l'élaboration est en cours. Ce processus, appuyé par mon organisation, le Programme des Nations Unies pour le Développement, vise à doter la République démocratique du Congo d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et d'un avant-projet de loi cadre sur l'aménagement du territoire d'ici fin décembre 2019.
Pour Dominique Sam, il y a urgence de réussir le pari de la réforme de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo.
Je voudrais en appeler à une compréhension partagée de l'urgence de réussir le pari de cette réforme. La RDC est confrontée à des défis d'affectation et d'utilisation de ces espaces et de valorisation de ces nombreuses ressources naturelles. Une des raisons justifiant cette situation est l'absence d'une vision consensuelle sur l'utilisation de son espace. Si rien n'est fait, cette situation pourrait compromettre les progrès enregistrés en matière de développement à ce jour. D'où la nécessité de la participation et de l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus de réforme en cours.
En conclusion, le représentant résident a réitéré l'engagement du PNUD d'accompagner le gouvernement congolais dans la concrétisation du processus de réforme de ce secteur.
Entre l'aménagement du territoire et les objectifs de développement durable, il n'y a qu'un pas. Restons encore avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette agence a lancé à Kinshasa son laboratoire d'accélération. C'était le mardi 5 novembre dernier. Une fois encore, Honoré Missinga Kalala pour le reportage.
Il s'agit d'une nouvelle approche que préconise le programme des Nations Unies pour le développement en vue de l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable. Le laboratoire d'accélération inventorie sélectionne, documente, expérimente et propose des mises à échelle des solutions résilientes développées par des Congolais dans leur milieu. Les avantages de cette approche ont été expliqués le mardi 5 novembre à Kinshasa aux experts du développement de divers secteurs, étatique et non étatique, en présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le représentant résident du PNUD en RDC, Dominique Sam, a expliqué la vision de son agence à travers le laboratoire d'accélération, celle de mobiliser les nouvelles technologies et les connaissances des innovateurs locaux pour mettre à l'essai et trouver des nouvelles solutions à des problèmes de développement en ce 21e siècle. La mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle approche ont bénéficié de la contribution financière du gouvernement allemand, que le représentant résident a remercié, avant de réitérer la volonté du PNUD de continuer à appuyer toutes les initiatives visant le développement humain durable en RDC.
Autre événement de la semaine, le verdict est tombé, 30 ans de prison, c'est la peine prononcée contre Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Mais pour avoir déjà passé 6 ans dans cette maison pénitentiaire internationale, l'ancien chef d'état-major général adjoint des forces patriotiques pour la libération du Congo, FLPC, ne purgera que 24 ans. D'autres précisions de ces verdicts avec Jeff Ngoy.
C'est une peine cumulative de plusieurs autres peines. 24 années à passer derrière les barreaux pour Bosco Ntaganda. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue par les juges de la CPI. Ils ont estimé que les éléments constitutifs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont Bosco est co-auteur indirect et auteur direct pour certains, sont d'une extrême gravité. D'abord, compte tenu de la cruauté particulière, puis de la vulnérabilité des victimes. Selon les juges, dans leur exposé des motifs, le meurtre notamment de l'abbé Boniface Bonalonga en présence de ses subalternes avait un caractère discriminatoire. Les attaques dirigées contre les localités de Mongwalou et Sayo, contre plusieurs civils, suivies des pillages et viols systématiques des villages. Les stigmates que portent encore aujourd'hui les victimes de viols, traumatismes, troubles sexuels, tout cela ne peut nullement justifier une quelconque circonstance atténuante sollicitée. Détenu à la CPI depuis mars 2013, les juges ont dit aux condamnés qu'ils peuvent faire appel de la sentence en ayant 30 jours.
Aussitôt le verdict tombé, des réactions ont été immédiatement enregistrées en Ituri. Des réactions divergentes, comme raconte ce reportage de Martial Kizabiamungu.
L'ancien chef de guerre, Bosco Ntaganda, alias Terminator, est condamné, auteur et co-auteur, de 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il aurait commis dans 49 localités du territoire de Ndjougou et Irumu en Ituri. Une peine que l'Organisation de défense des droits de l'homme, Justice Plus, juge conforme au préjudice consubi et de les victimes. Son coordonnateur, Xavier Maki, parle d'une victoire des victimes.
Très satisfait par cette décision. Le souci pour nous et toutes les victimes, c'est que de les voir demain, les victimes obtenir une ordonnance de réparation pour que tous les préjudices qui ont été connus par ces victimes soient réparés.
Son ancien groupe armé, aujourd'hui Parti politique Union des Patriotes Congolais, IPC, se dit déçu de ce jugement qui, selon lui, ne reflète pas la réalité de ce qui s'est réellement passé. passée. Un de ses cadres politiques, Pélé Kassouara, explique.
Au même moment, nous sommes déçus, mais nous savions que la Cour pénale arriverait à de telles monstruosités juridiques. Si cette Cour était sérieuse, elle devrait venir nous dire qui a vraiment tué Anituri. Jusque-là, on ne dit pas, c'était 60 000 morts.
Notons qu'au stade actuel, 2199 victimes ont participé à ces procès assistés de leurs avocats. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La FAO et les PAM ont célébré cette année aux côtés du gouvernement à Kinshasa la journée mondiale de l'alimentation. C'était le mercredi 23 octobre sur un site maraîcher dans la commune de Lancélé. Aristide Ongoné-Obamé, le représentant de la FAO, parle ici du sens de cet événement dans cet entretien avec Honoré Missinga Kalala que les magazines UN vous proposent à nouveau.
Monsieur le représentant, bonjour.
Bonjour.
Vous célébrez la journée mondiale de l'alimentation. C'est quoi l'alimentation ?
Une question sémantique, c'est toutes ces opérations qui consistent pour un être vivant, parce que ça ne concerne pas que l'être humain, l'alimentation, à absorber des éléments, des ingrédients qui participent à son métabolisme pour sa survie.
Alors, pourquoi faire une journée mondiale ?
Une journée mondiale, parce que l'alimentation est une préoccupation, une problématique pour l'être humain qui est mondial et qui est à la base de toute chose. Quand on est, le premier à composer, c'est de téter le sein de sa maman. L'alimentation est la base de tout ce que nous faisons. Donc ça concerne tout le monde. Il n'y a pas un seul être humain qui peut dire que l'alimentation c'est secondaire. Ça n'existe pas. Donc nous sommes tous concernés, mais comme l'alimentation pose des problèmes actuellement, c'est pour ça qu'à chaque fois, au moins une fois par an, on attire l'attention, on tire la sonnette d'alarme pour que tous ceux qui concourent, tous ceux qui participent, tous ceux qui sont intégrés, impliqués dans les politiques alimentaires, sachent qu'il y a des problèmes auxquels il faut trouver des solutions.
Pour l'année 2019, quel est le thème ?
Le thème, c'est Acte pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro.
Alors, si on peut décortiquer ce thème, les actions, comment vous allez agir ?
Pour agir, il faut produire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut qu'il y ait déjà la disponibilité. Nous devons produire. Mais nous devons produire avec des systèmes qui permettent deux choses essentiellement. Produire des aliments de bonne qualité et respecter l'environnement, parce que c'est l'environnement qui nous permet de produire. On préserve l'environnement pour produire sain. Voilà les actions principales qu'il faut mener.
Donc, qu'est-ce qu'il y a des aliments qui ne sont pas sains ?
Bien entendu, les aliments qui sont produits dans des systèmes inappropriés ne sont pas sains. Des systèmes inappropriés, des terres qui sont polluées, des terres qui sont saturées par des polluants, qu'ils soient chimiques ou pas. On peut aussi dire que trop d'intrants comme des pesticides, ça peut, s'ils sont mal utilisés, mal dosés, effectivement provoquer des déséquilibres au niveau même de l'alimentation. Il y a même des résidus qui restent dans les aliments et que nous absorbons. Et effectivement, c'est pas sain. C'est pas sain. Je peux encore citer d'autres cas, oui.
Alors, il y a le dernier axe du thème, c'est fin zéro. Qu'est-ce que vous entendez par fin zéro ?
Fin zéro, nous allons d'abord rappeler qu'aujourd'hui, nous avons encore un peu plus de 800 millions de personnes qui souffrent de faim dans le monde. Quand on vous dit ça, c'est dramatique. Ça veut dire que ça dépasse la population du Congo. C'est comme si le Congo fois 8 ou fois 9 souffrait de faim. Pour vous donner une image, c'est dramatique. Alors, ceci dit, notre objectif, c'est libérer ce monde de la faim, faire en sorte que d'ici 2030, c'est un délai qu'on s'est fixé, qu'il n'y ait plus personne qui souffre de faim. Maintenant, ça c'est faim zéro, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir faim, mais d'être malnutri quand même. Il faut manger à sa faim, mais avec des aliments sains et variés. Il faut de l'équilibre dans ce que vous mangez. Sinon, vous passez de l'autre côté de la barrière. D'un côté, nous avons les affamés. De l'autre côté, nous avons les obèses. Ceux qui mangent beaucoup, mais de manière déséquilibrée.
Dernière question, monsieur le représentant. Vous venez célébrer cette journée sur ce site avec des maraîchers. Le fait de cibler les maraîchers a un message particulier ?
Le message ne s'adresse pas spécifiquement aux maraîchers. Le message s'adresse à nous tous. Vous voyez, cette journée est une journée, j'ai dit tout à l'heure, pour tirer la sonnette d'alarme, pour interpeller. Vous avez vu que nous avons eu la chance d'avoir parmi nous deux membres du gouvernement qui sont venus. Ce sont eux les décideurs. Ils doivent pouvoir décider. C'est pour interpeller cela. On devrait aussi interpeller le corps diplomatique. On avait ici un ambassadeur parmi nous. C'est quelqu'un qui peut décider aussi. Nous avons aussi dans l'assistance des ONG, le secteur privé. Tout ça, ça ne concerne pas que les maraîchers. Ça concerne tout ce monde-là. Ils doivent tous intervenir, agir. Nous avons besoin de tout ce monde-là.
Alors, peut-être un dernier message par rapport à la journée, par rapport au thème.
Bon, un dernier message, ce serait d'encourager le gouvernement de la République démocratique du Congo à accorder, comme cela commence à se dire, l'importance qu'il faut au travail de la terre, à la production agricole. À partir de là, la production agricole va nous permettre très rapidement, non seulement d'aller vers fin zéro, mais de régler le problème de la main-d'œuvre, de l'employabilité des jeunes. Vous avez vu sur ce site maraîcher, il y a plusieurs jeunes qui sont là-dessus. Et quand on a distribué des kits, on n'a pas pu satisfaire tout le monde. Donc, il y a encore de l'espace, il y a plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans la production maraîchère. Je pense que c'est un appel. Et j'ai eu l'occasion de partager déjà avec quelques ambassadeurs si ensemble on peut renforcer ce site. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le représentant.
C'est moi qui vous remercie.
Nos nouvelles en bref partent de Mbujimayi au Kasaï oriental. Une formation des formateurs sur la mobilisation des femmes au processus électoral. C'est une initiative de l'ONU Femmes. Cette formation de 5 jours s'est clôturée lundi dernier. Elle a réuni des responsables, hommes et femmes de la société civile, œuvrant dans la promotion des droits de la femme et de la jeune fille, ainsi que les femmes candidates non élues lors des échéances électorales de décembre 2018. Quelques responsables des organisations internationales ont également pris part à cette formation. L'objectif était d'échanger des stratégies d'accompagnement des candidates afin d'améliorer le score des femmes lors des prochaines élections. Le prix de la policière de l'ONU 2019 attribué à la Sénégalaise Seynabou Diouf de la MONUSCO, commandante au sein de la police nationale du Sénégal, Seynabou Diouf a été récompensée pour sa prestation au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. À la MONUSCO, la lauréate dirige actuellement un groupe de travail pour aider à prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels à Goma, au Nord Kivu. La Sénégalaise était également responsable du réseau des femmes de la police de la MONUSCO, une structure qui implique les policières UNPOL dans des activités de formation, d'accompagnement et de développement professionnel et d'appui mutuel. Le prix de la policière de l'ONU a été créé en 2011 pour honorer la contribution exceptionnelle des femmes officiers de police aux opérations de paix des Nations Unies ainsi qu'à l'autonomisation des femmes. Enfin, des membres de la société civile et ceux de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, de Kinshasa, formés sur les techniques de la mise en œuvre de l'examen périodique universel. L'atelier ouvert à cet effet dans le cadre du partenariat entre le ministère des droits humains et le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a été lancé le 4 novembre. Il va se clôturer ce lundi 11 novembre 2019. L'examen périodique universel, un processus mené sous les auspices du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, permet à chaque État membre de présenter ses réalisations en matière des droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité du magazine des Nations Unies ce dimanche, c'est le chef de la sous-délégation du HCR à Kananga, Kasaï Central, Frédéric Kossig. Il parle de l'assistance financière que son agence a accordée aux retournés congolais d'Angola, près de 12 000 sur le site d'Inkandi. Suivez plutôt l'entretien de Frédéric Kossig avec Blaise Ndongala.
Bonjour Frédéric Kossiga.
Bonjour.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a assisté les ex-réfugiés retournés spontanés d'Angola. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire par rapport à cette opération sur le site d'Ekandji?
Le site de Kanji, c'est ce qu'on appelle pour les retournés spontanés, c'est-à-dire des réfugiés qui étaient en Angola, qui ont décidé de rentrer par leurs propres moyens et qui ont dit non, nous on n'attend pas la, on est pressé de rentrer, on n'attend pas l'assistance, on se débrouille tout seul. Après, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que le retour était beaucoup plus compliqué et présenté beaucoup plus de défis auxquels ils avaient anticipé. Donc, à titre humanitaire, on est quand même intervenu. On est intervenu en titre de transport. On a transporté 6786 personnes de Kalamamuji à Kanji. Et même si ces personnes qui au départ avaient, entre guillemets, renoncé à l'assistance, on a quand même aussi décidé à titre humanitaire de leur donner l'assistance, ce qu'on appelle le paquet retour.
Avez-vous assisté au total combien des retournés sur ces sites?
Donc, sur le site de Kanji, en trois phases, on a assisté 11 956 personnes.
Certains retournés spontanés disent n'avoir pas encore bénéficié de l'aide alors qu'ils ont tous les documents requis. Qu'en dites-vous?
Alors, d'après ce qu'on sait, il y a 27 personnes. Donc, sur les 11 956, ça fait du 2 pour 1000. Donc, c'est un nombre petit qui n'ont pas reçu d'assistance. Maintenant, notre politique, c'est de laisser personne derrière. Donc, on est en train de vérifier. Donc, ces personnes, on le sait puisqu'on avait ouvert justement, on avait anticipé des problèmes de la sorte. On avait ce qu'on appelle un bureau des plaintes. Donc, ces personnes sont venues nous voir et nous ont dit on a tel problème, tel problème. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on fait vis-à-vis de nos bailleurs, on est redevable. Donc on fait un travail de contrôle de qualité, savoir si les personnes n'ont pas reçu, et si elles n'ont pas reçu, est-ce qu'elles étaient éligibles, d'accord? Donc il faut qu'on fasse un travail de réconciliation des données entre les listes des gens qui ont déjà reçu avec la banque et voir si eux, ils ont reçu ou pas, d'accord? Dans certains cas, les personnes n'ont pas reçu, donc certains cas, c'est des membres de la famille qui ont collecté l'argent et apparemment, pour des raisons diverses, eux voudraient que soit, ils auraient préféré recevoir eux l'argent, etc. Alors qu'ils étaient informés que ce serait le chef de famille qui reçoit l'argent pour tout le monde. On ne va pas faire une distribution individuelle. Ça prendrait trop de temps. Donc ces personnes-là, on doit les informer qu'effectivement, la famille a déjà reçu et qu'il faut qu'ils s'arrangent en interne. On a les cas aussi de quelques malades qui n'ont pas pu se présenter le jour de la distribution, et dans ce cas on va essayer de les repêcher, de voir comme avec la banque comment on fait pour assister ces personnes qui n'ont pas pu se présenter le jour de la distribution. Donc voilà, on est vraiment dans un processus de qualité où même si c'est 2 pour 1000 et c'est un nombre très petit, on veut vraiment aller dans le détail pour être sûr que tous ceux qui ont droit à l'assistance sont assistés. Voilà.
Quand est-ce que cette opération d'assistance financière se clôture officiellement?
Alors, l'assistance sur Kanji est terminée. Et maintenant, c'est donc au cas par cas, ce petit nombre d'individus qui on vérifie si effectivement ils sont éligibles.
Si ce n'est pas un secret, Frédéric, l'opération des Kanji, des remises des cash, vous a coûté environ combien?
Alors, j'ai pas le chiffre en tête. Comme on avait dit, dans l'assistance, il y avait un paquet pour le transport, puisque certains, leur destination finale n'était pas Kananga, même si la majorité ont déclaré vouloir être à Kananga. Donc, on a donné les moyens de transport pour aller à leur destination finale. Ça, c'était pour les personnes de 5 ans et plus. Et on a donné aussi un paquet retour par personne, pour tous les membres de la famille, la même chose. Ce qu'on appelle un kit de retour, quelque chose pour les aider à redémarrer, de façon à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins immédiats en arrivant et commencer à trouver des solutions par eux-mêmes.
Vous avez démarré l'opération du rapatriement organisée au Kassai et au Kassai central. Combien de personnes comptez-vous rapatrier tout au long de cette opération?
En tout, on y aura à peu près 20 000 réfugiés qui vont rentrer dans les deux Kassai. Oui. Maintenant, ce qu'on a commencé dans la province du Kassai, c'est le rapatriement organisé. Donc, cette fois-ci, c'est nous qui prenons en charge du début à la fin le retour de ces rapatriés, de ces réfugiés. Et on va aussi commencer la même chose sur la province du Kassai central ce mois-ci probablement. Maintenant, le vrai travail, le travail de long terme commence, ou même si on continue à le rapatriement, il faut veiller faire le suivi de ces personnes dans le temps, travailler avec les autorités là-dessus, savoir qu'ils ont bien accès à leur documentation, s'ils ont pu avoir des cartes d'électeur, des choses comme ça. Et avec l'ensemble des partenaires humanitaires, on veut aussi qu'ils puissent s'intégrer dans leur propre pays et donc faire partie de tous les programmes qui existent déjà. Et je pense que voilà, ce sera une opération terminée, réussie, quand ces personnes auront une maison, auront un emploi, pourront subvenir à leurs besoins par eux-mêmes en tout.
Merci Frédéric Koussiga, nous vous disons merci.
Merci, au revoir.
Les casques bleus indonésiens, c'est l'heure du bilan. 12 mois après, nous sommes dans la province du Tanganyika. Une cérémonie de revoir pour ce premier bataillon du contingent indonésien a eu lieu à Kalemie après une année au service de maintien de la paix et des protections des civils dans cette province. Le film de cette cérémonie avec Françoise Agvemibé.
Il n'y a pas de super-hommes, mais bien des super-troupes. Voici comment le commandant du contingent des casques bleus indonésiens, le colonel Dwi Sasongko, réagit au cours de la cérémonie d'au revoir à la base de la MONUSCO. Les casques bleus indonésiens sont arrivés en début novembre 2018 dans la région en remplacement des casques bleus béninois en fin d'émission de maintien de la paix après plus de 10 ans de service sous le drapeau des Nations Unies. Au cours d'une année d'activité, le contingent des casques bleus indonésiens a déployé une vingtaine de bataillons du déploiement rapide dans les zones où la situation sécuritaire s'est dégradée. C'est le cas, par exemple, de Mulangé sur l'axe Moba suite à une attaque des Mai Mai Fimbo na Fimbo. Le cas des Kambou après une incursion de la milice Hutua. Et depuis, la paix s'y installe.
En tant que habitant de Mouala, c'est la façon dont les nouveaux contingents indonésiens se sont intégrés au sein de la communauté. Ils respectent la coutume, les chefs coutumiers, y compris les leaders communautaires et les populations locales.
Une partie du bataillon des casques bleus indonésiens qui quitte Kalemi est déjà signalée dans les secteurs de Bijombo au sud de Kivu pour la protection des civils à cause de la situation d'insécurité qui prévaut dans les hauts plateaux de Minembwe. François Diabemibé, Radio Kapi, Kalemi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Après l'inauguration de l'antenne locale de Radio Kapi Butembo, une question a été posée à David Gressley, coordonnateur des Nations Unies pour les interventions d'urgence contre Ebola. Suivez la question et la réponse de David Gressley.
David Gressley, bonjour, bienvenue à Radio Kapi. Vous venez de procéder à l'inauguration de l'antenne locale de Radio Kapi ici à Butembo. Pouvez-vous nous dire c'était quoi l'importance qu'il y avait ou la nécessité pour l'implantation ou l'installation d'une antenne locale de Radio Kapi ici à Butembo?
Oh, merci bien pour cette opportunité de parler avec la population ici à Butembo. Pour moi, j'ai l'envie d'avoir une radio ici depuis très longtemps, même avant l'épidémie d'Ebola. Mais franchement, avec l'épidémie qui a commencé ici il y a quelques mois, ça est devenu même plus important. Donc pour moi, avec toutes les questions, soit de l'épidémie, mais les questions d'insécurité, les questions de développement ici, des questions politiques qui sont intéressantes à la population. Pour moi, ce sont des questions importantes à discuter localement, pas d'écouter seulement les émissions nationales. C'est important pour la population même d'avoir leur propre radio, Radio Kapi, pour qu'on puisse discuter les problèmes, les préoccupations locales. Donc je suis très, très, très content d'être ici aujourd'hui pour cette inauguration. Et surtout, je suis content qu'on peut utiliser la Radio Kapi ici pour parler dans les langues locales, notamment Kinande. Pour moi, je crois avec ça, on peut atteindre beaucoup plus de la population et de parler dans leur langue courante qui va faciliter la communication. Donc je suis très content.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À noter dans vos agendas, le monde célèbre le 12 novembre la journée mondiale de la pneumonie, le 14 novembre journée internationale des diabétiques et le 16 novembre journée internationale de la tolérance. Et c'est la fin de ce 392e numéro du magazine des Nations Unies. Mimi Kindou était à la technique, au micro Julie Ngala. Coordination, reportage et réalisation d'Honoré Missenga. Toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi ce magazine et vous souhaite une bonne suite des programmes de Radio Kapi, la fréquence de la paix.